rapport au fait que sa parole vaut au-dessus de tout raisonnement, vaut au-dessus de tout rêve, vaut au-dessus de tout désir charnel, spirituel, vaut au-dessus de tout doute, au-dessus de tout désespoir, au-dessus de toute circonstance. La parole de Dieu est au-dessus. Et Dieu était en train de nous visiter par rapport à ça, et on était à genoux en train de demander pardon à Dieu pour toutes les fois où on oublie et on ignore que la parole de Dieu est au-dessus de tout. Et finalement, ensuite, on s'est mis tous ensemble à confesser la parole de Dieu et à confesser des choses folles. Et à confesser des choses folles, par exemple, comme le fait qu'un jour, nous ressusciterons tous ceux qui sont morts en Dieu ressusciteront avec lui. Et ça, c'est quelque chose de fou. Vous imaginez un cercueil, les sépulcres des morts aujourd'hui, c'est pas un frein pour Jésus. Et un jour, tout ça, excusez-moi, mais ça va péter, ça va exploser, ce sera quelque chose de glorieux, quelque chose de puissant. Et c'est la vérité, c'est la vérité. Tous ceux qui sont morts en Christ ressusciteront avec lui. Amen. Et c'est quelque chose de fou pour notre entendement. C'est fou, mais c'est la vérité. Jésus, quand ils sont allés au tombeau, le tombeau était vide et on a confessé la puissance de la résurrection ce dimanche matin-là. Lazare, quand Jésus allait vers Lazare, la puissance de la résurrection, Lazare, il a dit « Sors Lazare » et Lazare est sorti. C'est la puissance de la parole de Dieu. Et donc c'est comme si ce matin-là, ce dimanche matin-là, Dieu nous disait « Mes enfants, ma parole, elle est au-dessus de tout dans l'univers, au-dessus de tout, tout ce qui s'y passe. » Tout ce qui se passe dans le monde, tous vos doutes, tous vos raisonnements, tout votre entendement, tous vos rêves, même les rêves que vous avez envers moi, c'est ma parole qui est au-dessus de tout. Et il nous disait, et moi c'est comme ça que je l'ai interprété, finalement, votre rôle à vous, votre job, c'est de croire constamment en moi, de croire tout le temps en moi, de mettre ma parole au-dessus de tout et d'espérer en la parole de l'Éternel. C'est ça notre job. C'est de croire et d'espérer en la parole de l'Éternel et de mettre la parole au-dessus de nous. Et donc, ça m'a fait penser à un principe que moi j'ai vu en fait pendant mes études de droit, c'est le principe de primauté. Et finalement, ce matin, je veux nous rappeler que sa parole, il y a un principe de primauté sur la parole de Dieu. Et moi, ce que j'ai vu en droit, c'est que par exemple, le droit européen, en fait, il y a un principe de primauté, c'est-à-dire que toutes les normes européennes prévalent sur les normes internes de notre pays. Ce qui fait que, par exemple, si je suis devant un juge et qu'une norme de notre pays en fait, vient contredire une norme européenne, le juge doit appliquer la norme européenne qui s'applique à mon cas. Vous me suivez ? Et quelque part, le juge est dans l'obligation d'ignorer la propre loi de son pays pour appliquer la loi européenne, la norme européenne. Et donc, c'est cela qu'on appelle le principe de primauté. Et quelque part, Dieu nous dit, vous devez faire pareil avec ma parole. Chaque fois qu'il y a quelque chose dans vos vies qui vient en conflit avec ma parole, chaque fois que je vous donne un ordre, chaque fois que vous lisez ma parole et que ça vient en conflit avec un rêve, avec un désir, avec des envies, avec des doutes, vous devez faire comme les juges. Vous devez ignorer cela. Vous devez remettre vos doutes, vous devez remettre vos rêves à l'Éternel et rentrer en conformité avec sa parole qui est la primauté. Amen. Donc ça, c'était mon premier point, ce principe de primauté. Et ce principe de primauté, on doit le faire régner, on doit faire régner la parole de Dieu sur tout ce que nous sommes, sur même nos plus grands rêves, même nos rêves pour Dieu. La parole de Dieu dit que toutes les voies devant l'homme sont pures à ses propres yeux, mais que c'est Dieu qui sonde, et que si on se remet en lui, alors oui, les choses qui sont vraiment de lui s'accompliront et réussiront. Et donc nos doutes, tout ce qui est en nous, tout doit être soumis à ce principe de primauté de sa parole. Et mon deuxième point, et je vais revenir justement à un mot de mon titre, c'est le mépris en fait. Et quelque part, pour Dieu, et j'ose dire ça parce qu'on le verra dans un texte, pour Dieu chaque fois en fait qu'on joue avec ce principe de primauté, et qu'on vient finalement plutôt à ignorer la parole de Dieu et à mettre plutôt en évidence nos rêves, nos doutes, nos espoirs, nos désespoirs, et ben dans ce cas-là, on va commencer à renverser la vapeur, à ignorer la parole de Dieu et finalement à rentrer dans un mépris de la parole de Dieu et de Dieu lui-même. Et je sais que le mot est fort, mépris. Et je regardais dans le dictionnaire, le mot mépris signifie, quand on a du mépris auprès de quelqu'un, par exemple, on considère que la personne est indigne de notre estime, que la personne est indigne d'attention. Donc ça revient au mot ignorance, le fait d'ignorer. Ou encore, c'est une attitude par laquelle on s'élève au-dessus d'une chose ou d'une personne. Et donc là, par exemple, en l'espèce, c'est quand on s'élève au-dessus de Dieu et au-dessus de sa parole. Et c'est ce que Dieu va considérer de la part de son peuple lorsque l'incrédulité va rentrer dans le peuple. Donc vous connaissez tous l'histoire quand le peuple d'Israël donc, va quitter l'Égypte et va devoir rentrer en terre promise. À un temps donné, il va y avoir des espions qui vont devoir aller explorer la terre promise. Et quand ces espions vont revenir, ils vont avoir une certaine version de ce qu'ils ont vu et l'incrédulité va rentrer dans le peuple de Dieu. Et donc on va prendre Nombre, chapitre 13, versets 27 à 33. Et donc là, en fait, ils font leur compte-rendu à Moïse. Et donc ils disent, voici ce qu'ils racontèrent à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel, et en voici les fruits. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant, les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons vu des enfants d'Anak. Les Amalécites habitent la contrée du Midi, les Essiens, les Jébusiens et les Amoréens habitent la montagne, et les Cananéens habitent près de la mer et le long du Jourdain. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse et dit « Montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. » Mais les hommes qui étaient allés avec lui dirent « Nous ne pouvons pas monter contre ce peuple car il est plus fort que nous. » Tu peux encore aller. Ouais. Et ils décrièrent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Ils dirent, le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tous ceux que nous y avons vus sont des hommes d'une haute taille. Et nous y avons vu les géants, enfants d'Anak de la race des géants. Nous étions à nos yeux et aux leurs comme des sauterelles. Donc c'est tout. Et ensuite, on va prendre Nombre, verset 11. Et en fait, quand les explorateurs donc, vont dire cela, on voit en fait le peuple commence à murmurer. Et la parole de Dieu, donc j'ai pas pris, mais à la fin du chapitre 13, en fait, c'est dit que en fait, le peuple se mettait à pleurer et ils étaient rentrés dans une telle incrédulité qu'ils voulaient lapider Caleb, Josué, Moïse, Aaron. Ils voulaient les démolir, ils voulaient les tuer tellement ils s'étaient mis à avoir cette peur et à avoir ces doutes alors que l'Éternel leur avait dit « Allez dans cette terre promise ». Et là, on voit en fait que l'Éternel va commencer à s'énerver et il va dire à Moïse « Jusqu'à quand ce peuple me méprisera-t-il? Jusqu'à quand ne croira-t-il pas en moi malgré tous les prodiges que j'ai faits au milieu de lui ?» Et c'est ainsi que l'Éternel a ressenti les choses et c'est ce que l'Éternel a considéré de la part du peuple d'Israël, c'était du mépris. Il avait tellement agi pendant avec lui, il lui avait déjà montré de grandes choses, leur sortie d'Égypte, la mer qui se sépare en deux. Et finalement, en fait, quand Dieu leur dit « Allez explorer, faites un compte-rendu à Moïse pour qu'ensuite Moïse puisse prendre les dispositions pour faire rentrer son peuple en terre promise », et ben là, d'un coup, c'est les pétoches. Et d'un coup, ils sont en train même d'extrapoler. Ils disent au début « Voilà, on a vu ça, ça, ça ». Et puis d'un coup, ça amplifie. Ils sont en train de dire « Mais en fait, on est comme des sauterelles. On va se faire bouffer, là, en fait. On va se faire tuer si on y va ». Et ils oublient, en fait, que ben, c'est l'Éternel qui les envoie. Et finalement, on peut se l'avouer, on a déjà tous été comme le peuple d'Israël à se dire franchement, là, je vais me faire bouffer, je vais me faire tuer, je suis comme une sauterelle vis-à-vis de telle personne, vis-à-vis de telle situation. Et parfois, malheureusement, et c'est notre instinct primaire, notre instinct charnel, en fait, on ignore et on se met à ignorer Dieu et on se met à ignorer sa parole. Et on est plus concentré sur ce qu'on ressent et sur ce qu'on voit avec nos yeux humains plutôt que d'être concentré sur la primauté de la parole de Dieu. Et ça, c'est notre instinct premier, notre instinct charnel. Notre cœur est comme ça, en fait, humainement parlant. Et ensuite, là, je n'ai pas pris les versets, mais par exemple, si on pense à Saül, tout le monde connaît l'histoire de Saül, ce roi quand même qui est oint par l'Éternel, où Samuel va et le oint, et ensuite il va désobéir plusieurs fois à l'Éternel. Et par exemple, si on a, il y a Saül avec les Philistins, et pour les, par rapport aux Philistins, Samuel avait donné, donc le prophète Samuel avait donné un ordre très clair à Saül. Il lui avait dit, voilà, tu vas te positionner devant les Philistins, et puis tu vas m'attendre pendant 7 jours. Et au 7e jour, je viendrai, et là, en fait, on fera des holocaustes devant l'Éternel, puis après, tu livreras bataille et tu gagneras. Saül, lui, ben, il va avec, avec toute son armée, il se présente, il s'installe, il voit les Philistins, et les Philistins, c'est dit, ils étaient aussi nombreux que le sable au bord d'une plage, au bord de la mer. Donc vous pouvez imaginer, vous voyez, Dieu vous dit, vous vous mettez en place, vous attendez, et vous voyez tous les ennemis arriver, pa 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 pa. Ils sont tous devant nous, et puis Dieu vous dit, vous t'attends. 7 jours. Premier jour. Deuxième jour. Et puis il voit les Philistins commencer à se mettre en place. Troisième jour. Quatrième jour. Cinquième jour. Puis Samuel n'y arrive toujours pas. Sixième jour. Franchement, là, Samuel, il abuse quand même. Pourquoi est-ce qu'il ne vient pas plus tôt? Il ne me voit pas, là, devant les Philistins. Puis ensuite, septième jour. Puis septième jour, puis les heures commencent à passer. Puis Saül, qu'est-ce qu'il se dit? Bah moi, je vais le faire, l'Holocauste. Je ne vais pas attendre Samuel. Et il commence à faire son Holocauste. Le problème, c'est que Samuel, comme convenu, selon l'ordre de l'Éternel, il arrive au septième jour. Il n'avait pas dit quelle heure, ni peut-être pas la minute, ni peut-être pas la seconde. Et il arrive. Et là, il lui dit, mais qu'est-ce que tu as fait? Tu devais m'attendre et on devait le faire ensemble. Et là, l'Éternel va commencer à être en colère par rapport à Saül, parce que Saül n'aura pas eu la repentance par derrière. Il n'aura pas eu l'humilité de dire, ok, pardon, j'ai désobéi. Et il va continuer, par exemple, avec les Amalécites. Et Dieu devait en fait se venger des Amalécites qui n'avaient pas été ferblés quand le peuple d'Israël a dû sortir d'Égypte. En fait, les Amalécites ont refusé que le peuple d'Israël passe par un chemin. Et donc, Dieu veut se venger, en fait, par rapport à ça. Et l'ordre de Dieu, on va prendre Samuel, chapitre 15, versets 1 à 3, est très clair par rapport aux Amalécites. Donc Samuel, chapitre 15, versets 1 à 3. Samuel dit à Saül, « C'est moi que l'Éternel a envoyé pour toindre roi sur son peuple, sur Israël. Écoute donc ce que dit l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel des armées. Je me souviens de ce qu'Amalek fit à Israël lorsqu'il lui ferma le chemin à sa sortie d'Égypte. Va maintenant, frappe Amalek et dévoué par interdit tout ce qui lui appartient. Tu ne l'épargneras point et tu feras mourir hommes et femmes, enfants et nourrissons, bœufs et brebis, chameaux et ânes. » Donc tout devait être voué par interdit, tout, totalement tout. Et on va prendre au verset 9. Mais Saül et le peuple épargnèrent Agag et les meilleures brebis, les meilleurs bœufs, les meilleures bêtes et la seconde portée, les agneaux gras et tout ce qu'il y avait de bon. Ils ne voulurent pas le dévouer par interdit et ils dévouèrent seulement tout ce qui était méprisable et chétif. Et donc on voit, en fait, Saül va appliquer la moitié de ce que l'Éternel a ordonné. Il dit, ben, je vais quand même prendre ce qu'il y a de meilleur, en fait. Les bœufs les plus gras, ce qui peut être bien, en fait, et ce qui pourrait être de meilleur pour un sacrifice. Mais l'Éternel ne lui a jamais demandé de faire ça. Il lui a dit, tu dévoues tout par interdire, parce que moi, je dois faire quelque chose avec les Amalécites, parce qu'ils n'ont pas respecté ma volonté et ils ont été durs envers vous à la sortie d'Égypte. Et lui, Saül, il fait la moitié des choses. Et le problème, c'est que ensuite, il vient et il va dire à Samuel, va aller à sa rencontre et il va dire, mais encore une fois, tu n'as pas obéi à l'Éternel. Tu n'as pas obéi, tu devais tout dévouer par interdit. Et en fait, il va dire, bah oui, mais comme ça, on va faire des holocaustes pour Dieu. Mais Dieu lui a jamais demandé ce sacrifice. Et ensuite, troisième personnage de la Bible, on connaît tous l'histoire de Samson. Samson, on le connaît bien pour ses cheveux, pour la longueur de ses cheveux qui le rend très fort. Et on se dit, c'est génial, parce qu'à la fin, quand même, il renverse le palais des Philistins. Sauf que lui, il meurt quand même avec les Philistins, et il meurt avec les deux yeux percés. Et honnêtement, je suis convaincue que ce n'était pas la volonté de Dieu pour Samson de mourir ainsi. La volonté de Dieu était tout autre pour Samson. Mais il s'est mis dans un entre-deux avec Dalila. Et puis en fait, il ne se rendait même pas compte qu'elle, elle était au service des Philistins. Et puis en fait, à plusieurs reprises, les Philistins voulaient savoir en fait, mais quel était le secret de Samson? Comment il pouvait être aussi fort? D'où venait cette force? Et donc à chaque fois, elle va le questionner. Puis lui, il lui donne à chaque fois Samson, bon, à trois reprises, il va lui donner un truc qui est faux en fait. Et puis lui, il ne se rend même pas compte que Dalila, à chaque fois, elle va essayer la chose qu'il lui a dite. Mais à chaque fois, ça ne marche pas, il garde toujours sa force. Jusqu'à la quatrième fois, où comme il s'y met dans une position d'entre-deux, la Bible dit que l'âme de Samson s'impatientait jusqu'à la mort. Je ne sais pas si vous pouvez vous imaginer les situations d'entre-deux, où en fait on peut être là et d'un coup on s'impatiente jusqu'à la mort. Et là d'un coup, paf, il livre son secret. Et donc elle va lui raser les cheveux, il va perdre toute sa force, il va être emprisonné. Il est dit que Samson s'est retrouvé à faire tourner la meule de la prison. Et ensuite, il s'est sacrifié lui-même. Dieu ne lui a pas demandé de se tuer ainsi pour les Philistins. J'ai encore un autre personnage. C'est Moïse avec le peuple d'Israël par rapport au rocher, le rocher d'Horeb et le rocher de Kadès. Le même but, le but est le même, c'est d'abreuver le peuple de Dieu et de montrer la puissance de l'Éternel. Et le fait est, c'est que pour le rocher d'Horeb, l'Éternel, en fait, va dire à Moïse de frapper avec sa verge le rocher. Et pour le rocher de Kadès, là, l'Éternel a dit à Moïse de parler au rocher. Le fait est, c'est que Moïse va de nouveau frapper le rocher et ne va pas parler au rocher. Et la sanction sera fatale pour Moïse parce qu'il ne rentrera pas en terre promise. Et le fait est, c'est que cette situation-là, elle est énorme parce qu'en fait, c'est le même but. Mais Dieu n'avait pas donné le même moyen de l'atteindre. Et ça, c'est quelque chose qui, honnêtement, est hyper difficile pour nos vies, mais c'est ce que Dieu nous demande. Parfois, Dieu va nous demander dans nos vies, à un moment donné, on va se retrouver peut-être dans la même situation, c'est le même but à atteindre. Mais Dieu te dira, fais de cette manière la première fois, et la deuxième fois, ce sera d'une autre manière. Il faut accepter de ne pas répéter les choses du passé et d'atteindre le but sans vouloir refaire forcément ce que Dieu a donné avant, mais de savoir l'écouter et de savoir dire « Ok, j'ai compris que là, tu demandes ça et que c'est de manière différente. » Et c'est hyper dur et ça, j'en conviens tout à fait. Et Moïse, honnêtement, je sais que c'est pas par orgueil que Moïse s'est mis à frapper plutôt que de parler. Quand on voit le peuple d'Israël, la dureté, être un leader face à un peuple pareil, bah franchement, c'est juste énorme. Donc je n'interpréterai pas pourquoi Moïse a commis cela par rapport au rocher. Mais j'avais à cœur de vous partager en disant, ouais, par exemple, c'est Moïse, ou après, il y a d'autres personnages de la Bible qui eux, ont réussi, mais c'était aussi des hommes comme tout le monde. Et par exemple, quand ma maman attendait, ma sœur et moi, donc pour ceux qui ne connaissent pas, en fait, j'ai une sœur jumelle, et en fait, ma maman a failli nous perdre. Je ne sais plus à combien de mois de grossesse elle était, et en fait, à un moment donné, elle a eu des saignements, elle est tombée, enfin, t'as fait un malaise, hein, c'est ça? T'as fait un malaise? Elle a fait un malaise et puis paf, elle a atterri à l'hôpital. Et pour les infirmières, en fait, c'était sûr qu'elle allait nous perdre. C'est ouais, de toute façon, c'est une interruption de grossesse. Voilà, c'est la chose normale des choses. Et ça arrive. Voilà, c'est un peu fataliste. Mais ma maman avait eu aussi une première grossesse de son fils aîné, donc de mon frère aîné, en fait, où elle avait failli le perdre aussi. Donc elle a prié, mon frère aîné est resté, il est vivant, tout va bien. Et nous, en fait, elle a failli nous perdre aussi. Et là, en fait, bah, l'Esprit de l'Éternel l'a inspiré autrement pour nous garder. Et elle a dit à Dieu, voilà, je n'ai pas de sang comme pour le peuple d'Israël pour mettre sur les linteaux, je n'ai pas d'huile. Tout ce que j'ai, c'est ma salive. Ça peut paraître crade, hein, prendre de sa salive. Et elle a pris de sa salive, elle a dit à Dieu, bah voilà, je me recouvre de la tête aux pieds. Je n'ai rien d'autre que ça et je me recouvre de la tête aux pieds. Et la nuit même, il y a une puissance qui l'a traversée et elle savait qu'elle nous garderait, ma sœur et moi. Et un jour, Dieu va dire, fais ça pour garder ton enfant. Et l'autre jour, Dieu dira, fais ça pour garder ton enfant ou pour garder ta grossesse. Et on a besoin d'avoir nos oreilles qui soient circoncises devant l'Éternel. Amen. Alors, il y a différentes causes parfois par rapport au mépris qu'on peut avoir devant l'Éternel. Et honnêtement, quand on voit Saül, il y avait une arrogance et un orgueil quand même, parce que pas une seule fois il demandait pardon à l'Éternel, pas une seule fois on le voit s'humilier devant l'Éternel et se courber devant lui. Donc parfois il y a l'orgueil dans nos cœurs, cet orgueil primaire, naturel qu'on a tous et qu'on peut tous avoir, ça nous arrive, cette arrogance, cette habitude aussi, l'habitude aussi de se positionner en entre-deux, on est entre-deux comme Samson. Puis on fait son, on est comme ça, et puis un jour, paf, bah forcément on chute. Et la parole le dit, que l'arrogance précède la ruine et l'orgueil précède la chute. Mais, et c'est dit aussi que celui qui méprise la parole se perd. Et Samuel dira aussi au peuple de Dieu à un moment donné que, en gros, faut rester près de Dieu, parce que sinon après on se met à faire des choses de néant. On fait des œuvres mortes, des sacrifices morts. Et ça, c'est les conséquences. On fait comme Saül, on peut, dans nos vies, parfois, ne même plus se rendre compte. On fait plein de choses pour Dieu, mais Dieu ne nous a pas demandé ça. Il dit, mais obéis d'abord à mon ordre. On peut même jeûner, prier. Mais si tu n'obéis pas à Dieu, en fait, ton jeûne ou ta prière ne vaut qu'un sacrifice néant devant l'Éternel. Ça vaut rien. Par contre, si tu obéis, et la parole le dit, l'obéissance vaut plus que les sacrifices. Et donc, l'important pour Dieu, c'est pas qu'on soit une vie remplie de sacrifices, pas une vie remplie d'œuvres mortes, mais une vie remplie d'œuvres vivantes, une vie remplie d'obéissance, parce que ça, c'est un bon parfum pour l'Éternel. Amen. Et il y a des cas, et ça, ce sera mon autre point, où la primauté a régné. Par exemple, si on prend David face à Goliath, tout le peuple avait peur, et David a réussi, il est allé au combat et il a gagné. Ensuite, quand on prend l'histoire de Moïse, alors certes j'ai parlé de Moïse avec le rocher, mais de manière générale, si on regarde Moïse, l'obéissance qu'il avait devant l'Éternel, tout ce que l'Éternel a pu accomplir dans sa vie, c'est juste majestueux. Ou par exemple, si on prend Paul avec ses missions, Paul, il voulait aller en Asie. Alors j'ai pas regardé, vous m'excusez, j'ai pas regardé quels étaient les pays désormais aujourd'hui par rapport au nom de l'époque. Ensuite, il dit qu'il arrive à Mysie et il veut aller en Bithynie. Mais il dira en fait que l'Esprit l'a empêché d'aller en Bithynie. Et le fait que le Saint-Esprit l'ait empêché d'aller en Bithynie, Dieu lui a ouvert une porte en Macédoine. Et ça, Paul, avant, c'était un persécuteur d'église. Et là, il est capable de discerner où Dieu le mène, où Dieu lui dit « Tu vas là, tu t'arrêtes là, mais par contre, une porte s'ouvre pour aller en Macédoine. » Et c'est possible pour nous. C'est possible. Si on prend aussi Caleb, et Sandy avait fait une super prêche sur Caleb, sur le fait qu'il avait, c'était un homme ordinaire avec une vie extraordinaire, et je vous invite à écouter cette prédication. Et Caleb, lui, il fait partie des explorateurs où on l'a vu, il disait « Mais moi, je veux y aller, je veux entrer dans ce pays. » Et finalement, il n'est pas entré. Et après, je ne sais plus à quel âge il avait, quand ça a été le temps, il était disposé pour rentrer dans le pays promis. Ou encore Josué. Et là, ce que Dieu nous dit ce matin, c'est que quand vous êtes disposé à m'obéir, quand vous êtes disposé à écouter ma parole, alors soit par exemple une prédication, une prophétie, mais aussi tout ce qui est inscrit là-dedans, noir sur blanc, ben ça donne une vie spirituelle riche, une vie spirituelle où on est en paix avec le Seigneur, parce que notre conscience nous parle et on sait où on en est avec Dieu et on sait que là, ce que je fais, Dieu l'agrée et ce n'est pas un sacrifice, c'est une obéissance tout simplement. Et la parole de Dieu, et je vous encourage, on va prendre Jean 8, versets 51 et 52. Donc versets 51 et 52, c'est marqué « en vérité, je vous le dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. » Bon, c'est juste le verset 51. « Si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. » Alors on sait tous qu'on est amené un jour à vivre cette mort charnelle. Mais là, il est parlé de mort spirituelle. « Si tu gardes ma parole, alors tu porteras du fruit. » Si en tant qu'Église, nous gardons la parole de Dieu, si nous osons quelque part parfois dire « Ok Seigneur, j'entends que là tu me dis stop, mais j'entends que là par contre tu me dis allez dans telle direction, faites ceci, faites cela, alors nous porterons du fruit. Alors l'Église est appelée à vivre dans la puissance parce qu'il y a la puissance dans la parole de l'Éternel. Et c'est le Dieu qui le dit, celui qui garde ma parole ne verra pas la mort. » Amen. Et vous allez me dire, bah, c'est bien beau, Elisabeth, mais comment on fait en fait pour pas tomber dans ce mépris? Comment fait-on? Et ce sera là mon dernier point. Et mon premier point par rapport à comment fait-on, c'est l'humilité par-dessus tout. Et vous savez, parfois, en fait, eh ben, il faut être capable de dire, « Ok, Seigneur, peut-être que je ne comprends pas tout, mais je me mets à genoux devant ta face et je reconnais que ta parole est supérieure à moi, que ta parole est supérieure à mes rêves, est supérieure à mon entendement. » C'est même peut-être que Dieu va te demander de te mettre parfois à plat ventre. Moi, ce jour-là, j'étais à plat ventre devant Dieu, quand à l'intercession, j'étais comme ça. Et parfois, l'Éternel peut te demander de te mettre à plat ventre. Et franchement, ça ne va pas te tuer. Mais par contre, continuer à désobéir à Dieu, ça, ça peut te tuer et ça peut te coûter ta vie entière. Et c'est l'humilité. L'humilité entre nous, j'ai pas peur de me mettre à genoux devant vous ce matin. J'ai pas peur de me mettre à plat ventre, parce que je sais que si je suis à plat ventre devant l'Éternel, si je suis à genoux, je risque pas de tomber. Par contre, si je rentre dans l'orgueil, dans l'arrogance, bah là, la chute, la Bible dit, c'est la ruine qui précède l'arrogance, et la chute précède l'orgueil. Donc l'humilité, l'humilité, restons dans l'humilité. Ensuite, et aussi le fait est, c'est que, parce que pendant que j'écrivais ce message, je sentais Dieu me dire que certaines personnes, surtout parmi les jeunes, vous pouvez avoir peur en fait par rapport à ce message en disant « mais c'est chaud quand même quand on voit comment Dieu parle de son peuple, comment Dieu parle de Saül ». Mais Dieu connaît nos cœurs et Dieu sait quand on le fait pas exprès ou quand on a essayé. Et Dieu n'en voudra jamais à quelqu'un de tenter quelque chose. Et c'est au fil du temps où vous allez grandir avec l'Éternel et vous allez de plus en plus comprendre et entendre sa voix. Donc ne repartez pas de ce culte en ayant de la peur en vous. Mais dites-vous que Dieu, s'il parle ce matin, c'est parce qu'il veut vous dire tout simplement qu'il a de grandes choses pour vous si vous gardez sa parole. Et le deuxième point aussi pour comment ne pas tomber dans le mépris, on va prendre Ézéchiel chapitre 36, verset 26. « Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. » Il faut jamais oublier en fait que notre instinct primaire, c'est comme Adam et Ève. Dieu dit un truc, bah on va se mettre à douter, on va réfléchir, on va même faire le contraire. Et de reconnaître et de venir continuellement devant Dieu et de dire à Dieu, donne-moi un cœur de chair, donne-moi un esprit nouveau, j'ai besoin d'être renouvelé, j'ai besoin d'être fortifié. Et on a besoin d'être constamment dans la prière, constamment dans cette humilité, constamment à demander à Dieu un cœur nouveau. Parce que notre instinct primaire par rapport à la parole de Dieu, c'est un cœur de pierre. Et Romains 12, verset 2, quand c'est dit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner ce qui est bon, agréable et parfait. » Ça, c'est ultra important. Et on le voit, on le connaît depuis, pour ceux qui traînent dans les églises depuis tout petit, et c'est un passage qu'on connaît depuis qu'on est enfant. Mais c'est important. Et lorsque Alex avait prêché sur le fait, ce qui doit nous rassasier en tant qu'homme spirituel, femme spirituelle, c'est la parole de Dieu. Et Dieu avait donné de prophétiser par rapport à ce message à Romains 12, verset 2, à quel point c'est fondamental de ne pas se conformer au siècle présent, mais de se laisser transformer par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner ce qui est bon, agréable et parfait. Et ce n'est pas juste un leitmotiv, ce n'est pas quelque chose, ouais, ne vous conformez pas au siècle présent comme un credo comme ça qui va bien. C'est une réalité, c'est puissant, c'est réel. Amen. Et aussi, on parle souvent de cœur circoncis ou incirconcis, mais nos oreilles aussi peuvent être incirconcises ou circoncises. Et le fait est, c'est que dans Actes des Apôtres, à un moment donné, quand les apôtres vont parler aux Juifs, les apôtres vont dire, voilà, vous avez un cœur et des oreilles qui ne sont pas circoncis. Et nos oreilles ont besoin d'être circoncises par le Seigneur. Et vous avez le droit de le réclamer à n'importe quel âge, d'avoir vos oreilles circoncises par le Seigneur. Moi, je le demande encore et encore et encore. Peu importe quand je prophétise, quand je prêche, je me mets à genoux parce que je ne veux pas m'écarter de gauche et de droite. Et j'espère le faire jusqu'à la fin de ma vie. Et si je ne le fais pas, eh ben, je prie Dieu que mon mari me reprenne sur ça et qu'il me dise « Hé, reviens un peu à tes débuts. » et reviens un peu comme tu étais avant, ça te gardera. » Et une des paroles qui avait été dite à une réunion suivante d'intercession, c'était le fait que la parole de Dieu était le mode d'emploi du guerrier. On peut faire et vouloir de grandes choses, mais si on s'écarte de la parole de Dieu, on ne peut rien faire. Par contre, avec la parole de Dieu, c'est la vie, c'est les fruits, c'est la puissance de l'esprit. Amen. Donc je conclurai là mon message. Et par rapport à ce que je viens de dire, je sais que ça peut parler de manière différente dans les cœurs. Et ce que je voudrais ce matin, tout comme nous, en fait, à intercession, on a eu un temps de repentance où on s'est humilié devant Dieu. C'est mon souhait ce matin et je crois réellement que c'est dans le cœur de Dieu ce matin qu'en tant qu'Église, collectivement, en fait, on prenne un temps où on va s'humilier devant Dieu. Vous pouvez vous mettre debout, vous pouvez vous mettre à terre, à plat ventre, à genoux. Faites comme vous le sentez, mais prenons ce temps ce matin. Sachons parfois mettre un peu nos vies sur pause et dire « Ok Seigneur, là je fais un peu le récap dans ma vie et je réfléchis un peu là où j'ai douté, là où je t'ai désobéi, là où j'ai fait un entre-deux comme Saül, où je t'ai obéi à moitié. » Et revenons à l'Éternel, humilions-nous, demandons-lui pardon. Et ensuite, une fois qu'on aura fait ce temps-là, je voudrais qu'on prie pour que nous soyons des hommes et des femmes fortes, comme Paul par exemple. Où on sait écouter Dieu, où on a besoin d'être édifié et fortifié dans la foi, être édifié et fortifié dans l'entendement, comme spirituellement parlant, on a besoin d'être rempli d'assurance sur ce que Dieu nous demande. Mais le premier temps, ce sera un temps d'humilité et de pardon que je souhaite et que Dieu souhaite que nous ayons en tant qu'Église afin de revenir. Des cœurs ont besoin de revenir complètement à la parole de Dieu. Amen. Alors, je vais demander à, je sais pas, c'est toi qui joue ce matin ou Sandy, peu importe, pour commencer un petit temps de musique. Mais n'attendez pas la musique pour vous mettre debout. Vous savez, nous, le matin, à intercession, il n'y a pas de musique. Et chez vous, il n'y a pas toujours de musique. Et parfois, il ne faut pas attendre les émotions, en fait, pour qu'il se passe quelque chose. Et il ne faut pas attendre les émotions pour demander pardon à Dieu. Juste parfois, même dans sa chambre, ou là, sans musique, tu peux déjà te mettre à genoux si tu ressens le besoin de te mettre à genoux. Et il ne faut pas qu'il y ait de timidité entre nous, parce que si on n'est pas capable de s'humilier devant Dieu ensemble, dans ce cas-là, excusez-moi, c'est qu'il y a un problème, en fait. Parce qu'on a besoin de ne pas porter de masque entre nous. Moi, je sais que je n'ai pas peur de me mettre devant vous à genoux, dans la louange, dans l'intercession. On se retrouve parfois à être d'une manière où il n'y a plus de masque. On n'a plus peur d'être ce que nous sommes tout simplement dans la présence de Dieu. Amen. Ouais, Seigneur Jésus, on veut être à ton écoute ce matin, Seigneur Jésus. Et tu nous dis ce matin que celui qui garde ta parole ne verra pas la mort, Seigneur. Et je te dis merci, Seigneur, merci pour la parole que tu nous as laissée. Merci pour toi, Seigneur, toi, Dieu, tu t'es fait homme sur terre. Tu as envoyé ton Fils, Seigneur, pour nous montrer le chemin. Tu es le chemin, la vérité et la vie. Et tu dis que nul ne vient au Père que par toi. Et je te loue pour la vérité qui est puissante. Je te loue pour la puissance de résurrection qu'il y a dans ta parole. Je te loue, Seigneur, pour la puissance qu'il y a dans ta parole, Seigneur. Je te loue pour ta parole, Seigneur. Et je veux, Seigneur, encore la mettre, Seigneur, au-dessus de ma tête, Seigneur Jésus, et reconnaître, Seigneur, que tu as la primauté, Seigneur, que ta parole est au-dessus de l'Église, que ta parole est au-dessus de toutes circonstances, que ta parole est au-dessus de tous nos doutes, de toutes nos craintes, de tous nos échecs. Ta parole est au-dessus de tout, Seigneur. Au-dessus de tout, Seigneur. Et je veux le confesser de ma bouche, Seigneur. Je veux le confesser de ma bouche, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Nous voulons te demander pardon aussi, Seigneur. Chaque fois, Seigneur, que nous nous mettons dans des situations d'entre-deux, Seigneur. Chaque fois que nous n'accomplissons pas ton complètement et totalement ta parole, Seigneur. Et alors nous nous retrouvons comme Saül, Nous nous retrouvons comme lui, Seigneur, à revenir vers toi en te proposant des sacrifices en échange. Mais ce n'était pas ta volonté. Ce n'était pas l'obéissance que tu attendais de nous, Seigneur. Et nous te demandons pardon chaque fois que nous nous positionnons en entre-deux, chaque fois que nous refusons de t'obéir, Seigneur. Là où nous avons échoué, nous te demandons pardon, Seigneur. Nous te demandons pardon, Père. Pardon pour nos manquements. Pardon pour nos fautes, pour nos omissions, Seigneur. Pardon quand tu nous demandes de pardonner, quand nous pardonnons pas, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous nos offenses, Seigneur. Ne nous retrouve pas comme un peuple, Seigneur, qui te méprise, Seigneur. Comme un peuple, Seigneur, qui t'ignore. Mais retrouve-nous, Seigneur, comme un peuple qui a un cœur disposé à faire ta volonté, à trouver un appui fraternel afin de faire ta volonté, afin d'ensemble discerner ta volonté, Seigneur. Élevez vos voix devant l'Éternel. Élevez vos voix devant l'Éternel. Répandez votre cœur. Dieu est un Dieu de grâce ce matin. Il veut donner son pardon à celui qui lui demande. À celui qui le demande. Dieu donne son pardon ce matin. Dieu restaure ce matin. Dieu restaure les vies qui sont placées en entre-deux. Dieu restaure ce matin. Mais il veut que tu t'humilies devant sa face. Il veut que tu oses t'humilier devant lui ce matin. Alléluia. 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 Alléluia, gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi pour ta parole, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, tu es digne de louange, Seigneur. Tu es digne d'adoration, Seigneur. Gloire à toi pour ta parole, Seigneur, qui est une lampe à nos pieds, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Parce que nous ne verrons pas la mort, Seigneur. Nous ne verrons pas la mort, Seigneur. Nous ressusciterons avec toi, Jésus. Alléluia. Nous ressusciterons en toi, Jésus. Alléluia. 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 Maintenant que tu t'es humilié devant l'Éternel, confesse sa parole. Confesse sa parole. Confesse sa parole. Confesse les promesses qu'il t'a faites. Confesse. Confesse combien même ses promesses tardent à venir. Confesse-les. Confesse-les. Confesse-les car l'Éternel te dit qu'elles se pointeront comme l'aube se lève. Comme l'aube est là chaque matin. Mes promesses viendront dans ta vie. Mes promesses se réaliseront, l'Éternel te dit. Mes promesses se réaliseront. Mes promesses se réaliseront. Mes promesses se réaliseront. Tout passera, mais ma parole demeurera. Ma parole demeurera. Ma parole demeurera. Elle subsistera à jamais. Elle subsistera à jamais. Alléluia. 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 Alléluia éternel. Alléluia éternel. Alléluia éternel. Alléluia éternel. Gloire à toi, Seigneur. 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 Alléluia. Alléluia. Shoromala, soromala, soromala, soromaya naso. Ila shoromala, soromala, salayana sain. Prends-nous tels que nous sommes, Seigneur. Prends-nous tels que nous sommes, Seigneur. Et donne-nous un cœur de chair, Seigneur. Donne-nous un cœur de chair, Seigneur. Un cœur de chair, Seigneur. Un esprit nouveau, Seigneur, afin de faire ta volonté, afin de faire ta volonté dans les premiers jours. jours de notre vie avec toi, tout comme dans nos derniers jours avec toi, Seigneur. Que nous fassions ta volonté jusqu'à ce que tu nous reprennes, Seigneur. Que nous fassions ta volonté, Seigneur, afin de ne pas être essoufflés en chemin, Seigneur. Nous voulons te demander continuellement un cœur nouveau, un esprit nouveau, Seigneur. Tu répands ton esprit sur toute chair, Seigneur. Nous voulons un cœur de chair et non un cœur de pierre, Seigneur. Alléluia. 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 Alléluia, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur, parce que tu es digne. Tu es digne, Seigneur. Tu es digne, Seigneur, de recevoir nos louanges, de recevoir notre adoration, de recevoir nos temps où nous nous humilions devant ta face, Seigneur. Tu es digne, Seigneur. Et en tant que peuple, Seigneur, nous nous courbons devant toi, Seigneur. Nous nous courbons devant ta face, Seigneur. Nous nous courbons devant toi, Seigneur Jésus. Nous nous courbons devant toi, Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi pour ces temps de repentance, pour ces temps d'humilité, pour ces temps de pardon. Alléluia. Alléluia. Alléluia, gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous à ne pas répéter les choses anciennes, Seigneur. Aide-nous à ne pas répéter les choses anciennes, Seigneur. À ne pas répéter les choses anciennes, mais à oser faire les choses nouvelles pour atteindre peut-être parfois des buts identiques, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Alléluia, nous te demandons ton aide, Seigneur, ce matin. Ton aide, Seigneur, pour chaque leader, Seigneur. Pour chaque enfant, Seigneur. Pour chaque personne qui est en toi, Seigneur. Nous te demandons ton aide, Seigneur. Que tu puisses, Seigneur, ce matin, fortifier chacun, Seigneur. Et c'est ma prière maintenant, Seigneur. Que chaque personne qui est en toi, Seigneur, que chaque personne qui est en toi soit fortifiée, Seigneur. Soit fortifiée, Seigneur. Soit fortifiée, Seigneur. Que celui qui n'a pas encore ses oreilles circoncises par l'Éternel ressorte de ce lieu avec les oreilles circoncises. Que celui qui n'a pas encore son cœur circoncis devant l'Éternel ressorte de ce lieu avec un cœur circoncis ce matin. Avec un cœur circoncis, ce matin l'Éternel se répand et il veut que tu croies que tu ressortiras de ce lieu avec un cœur circoncis, avec un cœur transformé, parce qu'il t'a fait la promesse au début du culte, il te l'a fait pendant la louange, il t'a fait cette promesse, il te l'a fait. Et il ne s'en repent point. Il te la donne. Il l'accomplit ce matin. Ce matin, l'Éternel accomplit sa parole. Il accomplit sa parole en nous. Il accomplit sa parole en nous. Il répand son esprit sur toute chair. Il répand son esprit sur toute chair. Il transforme nos cœurs en cœurs de chair. Il transforme nos cœurs en cœurs de chair. Il circoncit nos oreilles ce matin. Il circoncit nos cœurs. Alléluia. 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 Ce matin, si des personnes veulent s'avancer pour recevoir la prière, pour avoir ce cœur circoncis, si vous avez besoin de venir devant et de recevoir la prière, n'hésitez pas à vous avancer. N'ayez pas peur et on va prier pour vous, pour que le Saint-Esprit agisse dans vos vies. On va prier pour que le Saint-Esprit continue d'œuvrer. N'ayez pas peur de vous avancer. Amen. Amen. Ne tardez pas, n'endurcissez pas vos cœurs ce matin.